Soyez
au
cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonjour à tous, ou bonjour à tous, et merci de nous rejoindre dans votre émission sportive sur VOA Afrique qui parlera d'une semaine d'actualité particulièrement footballistique qui sera animée avec les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Élisée Mbati, on m'appelle, et pour m'accompagner, comme toujours, Amine Birouk depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, et bonsoir à tous.
Ahmedine Sy continue toujours son séjour à l'est des États-Unis, précisément dans l'Ohio. Ahmedine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis on prend la direction de Cotonou au Bénin pour retrouver notre confrère Albert Ogoudedji du service des sports de Radio Bénin. Bonsoir Albert.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Enfin, avec moi dans ce studio réservé pour le sport, Lawal Dine Kosourou, fidèle au poste. Lawal, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
Sporama, c'est parti. Avant de parler du jeu, on revient sur la mort de Bernard Tapie. L'ancien président mythique de l'Olympique de Marseille est décédé hier à la suite d'un cancer d'estomac, a annoncé sa famille. Il a marqué le sport français de son empreinte, notamment à travers l'OM. L'histoire d'amour entre Marseille et Bernard Tapie débute en 1986. Depuis 24 heures, les réactions affluent pour saluer la mémoire de l'une des grandes figures du foot français, Joseph-Antoine Bell, qui fut le capitaine du club phocéen lors des premières années de la présidence du Tapie. L'ancien international camerounais revient sur la personnalité du boss au micro de Yacouba Ouédraogo.
Bernard Tapie, je crois qu'il n'y a pas eu de jour sans coup de téléphone de Bernard Tapie aux environs de 23 heures. C'était généralement la personne qui m'accompagnait dans mon sommeil, qui m'appelait en dernier lieu tout chaque jour que tu faisais.
Il a été le seul président d'un club français à avoir ramené, hein, on va dire, la Ligue des Champions en France. Le dirigeant aussi rigoureux qui sait ce qu'il voulait.
On doit certainement à la vérité de lui reconnaître toutes ses qualités, mais de ne jamais occulter non plus, parce que c'est ça qui permet la bonne analyse et la bonne compréhension de l'Olympique de Marseille. C'est malheureusement aussi le président qui a conduit l'Olympique de Marseille en 2e division. Donc, on ne peut pas oublier cela pour comprendre ce qui se passe à l'OM. Grâce au passage de Bernard Tapie, l'Olympique de Marseille a atteint les sommets, mais à cause du passage de Bernard Tapie, l'Olympique de Marseille a quand même creusé sa tombe et depuis, il ne cesse d'essayer de renaître.
On dit de lui aussi, le président du club qui s'immixe dans le choix des joueurs qui vont évoluer sur le terrain. Est-ce que vous avez vécu cela avec lui?
Il était interventionniste, c'est vrai. Jusqu'à quel point? Mais ça, vous savez, tous les présidents aimeraient intervenir. C'est la force de l'entraîneur, c'est la personnalité de l'entraîneur qui conduit un président à se tenir à l'écart, même s'il y a des présidents qui sont prédisposés à cela. Mais il faut savoir quand même que la tentation est grande pour chacun, parce que après tout, chacun, un jour ou l'autre, a vu un ballon de foot de plus ou moins près, et donc chacun pense avoir quelque chose à dire, mais il y a un principe qu'on oublie, ou une réalité, c'est que l'entraîneur, lui, il a les joueurs tous les jours à l'entraînement, et donc il voit ce qu'ils font, et c'est en cela que l'entraîneur doit être un véritable spécialiste, c'est-à-dire que lorsque vous discutez avec votre président, faut bien que celui-ci s'aperçoive que vous lui dites des choses qu'il ne voit pas ou qu'il ne connaît pas.
Vous, finalement, qu'est-ce que vous retenez de Bernard Tapie?
Des hauts et des bas, pour être tout à fait honnête, mais ça, c'est aussi la vie des êtres humains. Je retiens que ça a été un formidable président, mais les faits nous démontrent aujourd'hui qu'il a été finalement un pied d'homme d'affaires, au point de devenir l'homme des affaires.
Alors Lawal, en 7 ans, il a fait de l'OM le meilleur club européen en le hissant sur le toit de l'Europe devant le Milan, c'est qu'il a battu 1-0 à Munich. C'était le 26 mai 1993.
Oui, Élisée, personne ne pourra jamais oublier cette date historique et ce qui est magique d'Abedi Pelé, la tête tout autant magique de Basile Boli pour offrir cette seule compétition, cette seule coupe aux grandes oreilles à la France. Le seul club jusqu'à aujourd'hui français l'ayant gagné, c'est l'Olympique de Marseille. C'était porté par Bernard Tapie. On a beau le détester, on a beau l'aimer, il a quelque chose de particulier, c'est un manager et il a apporté une nouvelle espérance à l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Les Phocéens doivent le pleurer.
Ça, il sera inhumé à Marseille.
À Marseille, bien qu'étant parisien, il sera inhumé à Marseille. Ça fait que l'histoire d'amour entre les deux, le pays, le club d'abord, la ville, et Bernard Tapie, c'est une histoire assez forte, assez intéressante. Et tous les hommages que les gens lui rendent en témoigne d'ailleurs, Élisée.
Abid, la France a perdu un homme de sport.
C'est une grosse perte aujourd'hui pour le sport et en général pour le football en France. Bernard Tapie, c'est une personnalité emblématique des années 80-90. C'est quelqu'un qui a réussi à révolutionner le monde du vélo avec la 5e victoire de Bernard Hinault, celle de Greg LeMond, premier américain à avoir remporté la Grande Boucle en 1986, où la marque présidé par Bernard Tapie, la vie claire. C'est aussi l'épopée incroyable de l'Olympique de Marseille. Il avait réussi à faire du club phocéen qui était quasiment en ruine, qui était quasiment en faillite, une véritable machine de guerre recrutant les meilleurs joueurs français et européens. La finale de Paris en 91, perdue face à l'Étoile Rouge de Belgrade, le succès de 93 face à l'équipe du Milan AC, et puis l'écroulement de cet empire après l'affaire VAOM. En tout cas, on aura tout vu, tout vécu avec Bernard Tapie, quelqu'un qui ne laissait personne indifférent, pouvait l'aimer ou le détester. En tout cas, l'artiste tire sa révérence à l'âge de 78 ans. Chapeau Bernard, salut l'artiste.
On revient sur les terrains maintenant. Les qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar sont de retour en Afrique avec les 3e et 4e journées. Ça commence le mercredi. 2 matchs en une semaine pour certains et 3 matchs pour d'autres, notamment le Maroc qui jouera 2 fois contre la Guinée-Bissau et le match en retard face à la Guinée-Conakry. Amine, 3 matchs en une semaine, même si c'est à domicile, ça s'annonce compliqué physiquement pour les Lions.
Ce sera un enchaînement de 3 matchs en 9 jours exactement, si on doit comptabiliser le début du stage, c'est-à-dire 11 jours exactement pour pouvoir mettre au point 3 équipes compétitives, obtenir le plein de résultats, le plein de points, 9 points, et surtout proposer un meilleur spectacle. Autant dire que le challenge est compliqué pour Wahid Halilhodžić et son équipe, d'autant plus que la sélection de Guinée-Bissau a fait ses preuves contre le Soudan avec une victoire en déplacement sur le score de 4-2. Ce sera le hors-d'œuvre, le plat de résistance, et le dessert, ce sera une équipe de Guinée-Conakry très compliquée à manœuvrer avec notamment sa star Naby Keita. Autant dire qu'aujourd'hui, Wahid Halilhodžić est devant une montagne, qu'il va falloir la gravir, et la gravir avec le moins de trous d'air et le moins de dégâts possible.
Justement, le sélectionneur Wahid Halilhodžić parle de ces 3 rendez-vous plus que importants qui peuvent déjà qualifier le Maroc pour le second tour.
C'est un rendez-vous pour moi crucial pour l'avenir de l'équipe nationale, de cette équipe, de ces groupes, pourquoi je dis comme ça. On joue 3 matchs qualificatif Coupe du Monde en une semaine. C'est très compliqué, très difficilement, et psychologiquement, et physiquement. On doit faire beaucoup, beaucoup de travail dans la récupération, et psychologique, et physique. Après, quand il joue 3 matchs à domicile, objectif, c'est 3 victoires. C'est facile de dire, mais il faut faire. C'est 3 matchs en une semaine à domicile. Si on gagne, si on fait maximum, ça sera extraordinaire. Ça veut dire déjà on est qualifié.
Amine, le technicien franco-bosnien a convoqué 27 joueurs sans Tarab ni Harit et toujours pas Ziyech.
Première surprise dans cette liste, la non-inclusion de Tarab, alors qu'il faisait partie des joueurs régulièrement convoqués par le franco-bosniak. Lucas Harit a été tranché il y a très longtemps. Je pense que sa dernière convocation remonte au mois de novembre 2020. Et puis le cas Ziyech est venu, je dirais, un peu compliquer la donne parce que visiblement, le courant ne passe plus entre le sélectionneur et la star de l'équipe de Chelsea. Hakim Ziyech, à qui Wahid Halilhodžić, qui est très frontal, a reproché un manque d'implication lors de certaines séances d'entraînement, refus de s'entraîner même. Et d'ailleurs, la question qui se pose, est-ce qu'il aurait eu le même comportement, la même attitude s'il était à Chelsea? Donc, si on vient entraînant les pieds en sélection, il vaut mieux se mettre de côté et laisser d'autres joueurs peut-être moins talentueux, mais certainement beaucoup plus volontaire. En tout cas, c'est la politique de Wahid Halilhodžić. Il a pris le risque de disputer 3 matchs cruciaux sans ses éléments. On verra si son pari va réussir, va tenir, ou s'il aura tout à fait tort. Dans ce cas-là, ce sera l'équipe du Maroc qui pâtira de ses choix du sélectionneur.
On va assister aussi à un duel au sommet entre la Tanzanie et le Bénin qui partage la tête du groupe J. Albert, les écureuils jouent gros contre les Taifa Stars et Michel Dussuyer a dévoilé une liste de 25 joueurs pour cette double confrontation. Il a très peu remanié son effectif.
Oui, Michel Dussuyer a très peu remanié son effectif car Michel Dussuyer reste toujours fidèle à ses principes, faisant avec les meilleurs du moment. Il a convoqué tous les joueurs béninois actuellement en compétition, actuellement en jambes et surtout actuellement ayant une adresse professionnelle dans un club. Et c'était aussi ça, vous savez que c'est l'une des conditions fortes pour Michel Dussuyer aujourd'hui. Il a un groupe quasiment sûr, un groupe sur lequel il compte avec tous ses cadres, Saturne Alagbe, Khaled Adenon, Cédric Rontondi, Olivier Verdon qui est de retour, Cécile Dalmeda également de retour au milieu de terrain, Jordan Adeoti et puis devant, Jodel Dossou, Sébio Soukou, Steve Mounier, bref, il a sur le papier les joueurs sur lesquels il compte pour faire le meilleur résultat possible face à la Tanzanie en 3 jours.
Le technicien français en conférence de presse a montré son respect envers l'adversaire qui, selon lui, a aussi de la qualité.
Je pense qu'on est là pour pas se situer dans la peau d'un favori ou d'un outsider. Je pense que c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est, je l'avais dit dès le départ, que c'était un groupe homogène. Parce que cette équipe de Tanzanie, elle a progressé toutes ces dernières années. Elle était présente à la CAN 2019. Il y a une ossature à cette équipe. Le football tanzanien, dans l'ensemble, aussi progresse avec des performances de FC Simba, notamment, qui a fait les quarts de finale de la Champions League la saison dernière. Donc, c'est un football qui est en mouvance, qui est en progression et une équipe qui est performante. Et donc, beaucoup de respect par rapport à cette équipe. C'est pas par hasard s'ils ont pris 4 points lors des 2 premières matchs.
La RDC et Madagascar en quête de points dans ce groupe n'ont plus droit à l'erreur dans le groupe C Lawal. Et face à la Centrafrique, le Nigeria invaincu jusque-là peut prendre le large.
Le Nigeria peut prendre de l'âge, Élisée, mais les Nigériens devront faire attention. Ils, s'ils se mettent dans leur zone de confort et pensent que tout est déjà acquis, ils pourraient être surpris. Et connaissant la Nigérie avec leur mentalité, j'espère qu'ils vont pouvoir jouer le jeu et accroître cette avance-là par rapport aux autres. Ils ont intérêt à le faire pour la beauté du jeu et pour le suspense dans ce groupe qui pourrait être tué d'avance si le Nigeria l'emporte. Maintenant, si les Centrafricains créent des problèmes aux Nigériens, tout sera relancé certainement.
Ahmedine, pareil pour le Sénégal qui affronte la Namibie, est conscient, Aliou Cissé ne veut négliger aucun détail avec de nouveaux venus. Alors, il faudra battre la Namibie second classement dans ce groupe afin de creuser l'écart.
Tout à fait, Élisée, pour cette double confrontation, le coach des Lions, Aliou Cissé, a renforcé son équipe en sélectionnant Bouna Sarr et Bamba Dieng. Ça fait, Élisée, que la sélection de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Bouna Sarr, a fait couler beaucoup d'encre et de salive, car le latéral droit du Bayern de Munich, qui avait la possibilité de jouer pour l'équipe de France, pour le Sénégal, mais également pour la Guinée, avait clamé haut et fort qu'il portait son choix pour le maillot de l'équipe de France. Mais il faut dire que les données ont changé et finalement, Bouna Sarr a choisi de porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Il y a aussi l'arrivée de Bamba Dieng, l'attaquant de Marseille, qui a été formé par l'Académie Djambar, qui marche sur l'eau avec un début de saison tonitruant et rappelé par Aliou Cissé pour booster l'attaque. Donc Aliou Cissé pour raconter sur ces deux renforts, mais également sur les joueurs qui jouent en Angleterre et Élysée.
À vous, Amine Birouko. Si la Tunisie peut continuer par faire le plein de points face à la Mauritanie mal en point, ce sera difficile en revanche pour la Libye qui aura l'Égypte en face.
Priori pour la Tunisie, ce sera une double confrontation compliquée lors du match de Nouakchott, un peu plus favorable lorsque la rencontre se déroulera à Rabat. A priori, la Tunisie est partie pour faire le plein de points, surtout après avoir amené une victoire très méritoire lors de la deuxième journée à Lusaka. Concernant la Libye, qui se trouve en tête du groupe avec 2 points d'avance sur l'Égypte, cette double confrontation, c'est un peu un match à quitte ou double. On sait que les pharaons viennent de changer de sélectionneur avec l'éviction de Hassan El Bedri et l'arrivée de Carlos Queiroz. L'équipe entraînée par Javier Clemente a réussi à être fidèle à l'image de l'entraîneur basque, c'est-à-dire volontaire, soudé, homogène. Elle a pu ainsi réussir un hold-up à Luanda, une victoire à l'arraché face au Gabon en Libye. Il va falloir capitaliser sur ces deux résultats pour essayer de battre un rival qui est historiquement un adversaire contre lequel la Libye ne réussit pas très bien. L'Égypte part avec la faveur des pronostics. Mais la Libye, cette Libye de Javier Clemente n'a pas dit son dernier mot.
Décevante contre le Burkina Faso, l'Algérie a l'occasion de se rattraper face au Niger. À Médine, les étalons en l'absence de Latina Traoré blessé en club n'auront pas trop de difficultés face au Djibouti afin de rester au coude à coude avec les Fenecs.
Oui, Élisée, le Burkina Faso sera orphelin de Latina Traoré blessé avec son club face à l'Inter de Milan, mais il faut dire que le Burkina ne doit pas avoir quand même du mal pour se défaire de cette équipe de Djibouti qui est considérée comme le petit poussé de ce groupe A. C'est vrai que l'absence de l'attaquant, de l'ancien attaquant de l'Ajax est un coup dur pour l'équipe du Burkina Faso, mais les Burkinabés pourront compter sur Bertrand Traoré qui fera son grand retour. Les Atalons qui occupent la deuxième place du groupe A à égalité de points avec les Algériens qui occupent la place de leader vont tenter de poursuivre sur leur lancée parce qu'ils avaient battu le Niger et fait match nul avec l'Algérie. Donc ils feront tout pour battre cette équipe qui a été laminée par l'Algérie sur le score de 8-0. D'ailleurs, ce match, Élisée, ressemble à un combat entre David et Goliath.
On est à vous, Albert. Retrouvé face au Cameroun qui sera sous pression devant le Mozambique, la Côte d'Ivoire qui se passera de Seko Fofana va tenter de confirmer au Malawi.
Oui, les éléphants étaient un peu embourbés, passez-moi l'expression, face au Mozambique lors de la première journée. Mais dans le choc, c'est vrai, avec tout ce qu'il y a eu autour et l'épisode de la pelouse, les éléphants ont réussi l'essentiel en s'imposant et en lançant peut-être leur campagne éliminatoire face aux Lions indomptables. C'est un match à référence. Et c'est vrai que la Côte d'Ivoire n'a pas Seko Fofana dans le cas d'espèce, mais elle a son nouveau buteur, Monsieur But, Sébastien Haller, qui compile et enchaîne but sur but. Il est tellement en confiance que sa seule présence sur le terrain suffit à faire de lui désormais cette locomotive offensive-là qui tire les éléphants vers l'avant, qui va tirer les éléphants face à une équipe de Malawi qui est un peu confrontée à des petits soucis d'organisation pour répondre présent à ces deux rendez-vous.
Pour le reste, match serré en vue dans le groupe B entre la Guinée équatoriale et la Zambie. Plus serré encore dans la poule G où l'Éthiopie jouera le leader Afrique du Sud pendant que le Ghana avec son nouveau sélectionneur tentera de se relancer face au Zimbabwe. De même pour le Gabon, décevant jusque-là et qui sera dans un difficile déplacement en Angola. Lawal, le Mali n'aura pas trop de difficultés à garder la tête de son groupe devant le Kenya.
Oui, trop de difficultés, ils n'en auront certainement pas, les Maliens, mais ils n'ont pas à se contenter de ce qu'ils ont déjà fait. Ils doivent pouvoir continuer à jouer comme ils l'ont fait jusque-là, afin de creuser l'écart et maintenir la pression sur les autres. S'ils croient qu'ils ont déjà tout à leur disposition, ils risquent d'être surpris, Élisée.
Le Togo, qui est à la recherche de son premier point, doit faire un grand match face au Congo-Brazzaville.
On le souhaite en tout cas vivement pour les Togolais, parce que ils ont montré de belles choses par le passé en Afrique et aujourd'hui qu'ils soient dans cette turbulence, ça désole un tout petit peu, mais on a bien envie de revoir les Togolais prendre encore revenir sur le devant de la scène en Afrique et ça permettra d'équilibrer certainement un certain nombre de choses à travers le continent.
Le foot féminin aussi sera sur les pelouses en octobre. En effet, la CAF a dévoilé le programme prévisionnel des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Le premier tour aller aura lieu le 20 octobre prochain. Le retour se tiendra entre le 23 et le 26. A noter que les 22 équipes qualifiées disputeront un deuxième tour avant que les 11 meilleurs ne rejoignent la sélection marocaine en phase finale. Albert, le Bénin entraîné par Séphorien Théou affrontera le Burkina Faso à Abidjan, un gros adversaire.
Le Burkina Faso, un gros adversaire. Bon, un pays qui a peut-être une avance en matière de football féminin sur le Bénin, mais un gros adversaire. Je pense que c'est un peu justement un trop grandement étiqueté le Burkina Faso par rapport au Bénin. Le Bénin, au regard de ses ambitions actuelles, le Burkina Faso reste un adversaire idéal et peut-être même de taille pour aller essayer d'envoyer un petit signal déjà à la famille du football féminin dans la sous-région. On connaît les pays qui sont vraiment en avance, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, tous ces pays-là ont vraiment franchi un autre palier en matière de football féminin. Et le Burkina Faso voisin reste un très bon adversaire, un très bon révélateur pour la bande symphorien Théo Immaculé Agbaku. Et là aussi, les écureuils version dames seront obligés de passer par Abidjan pour jouer le Burkina Faso. Donc petit avantage pour le Bénin qui ne jouera pas sur le terrain en griffe officielle du Burkina Faso et qui va avoir un match retour à la maison, pourquoi pas, pour essayer de passer au tour suivant.
On aura également, entre autres, Égypte, Tunisie, Mali, Guinée, Niger, Côte d'Ivoire ou encore Sao Tomé, Togo et Centrafrique, Cameroun. Quant aux Sénégalaises, elles seront opposées aux Libériennes. Amédine, un premier acte qui s'annonce difficile.
Tout à fait, Élisée. D'ailleurs, ce sera une affaire de Lyon. Pour cette double confrontation, les Lyons vont d'abord se rendre à Morovia avant de recevoir les Lone Stars, les Sénégalaises qui avaient battu cette même équipe du Libéria en mars 2020 en demi-finale lors du tournoi féminin WAFI, tenteront de poursuivre sur leur lancée pour, pourquoi pas, prendre une sérieuse option pour la qualification dès le match aller, puisque, il faut le dire, l'équipe nationale féminine du Sénégal a un peu le vent en poupant, parce que les filles de Mamoussa avaient remporté ce tournoi WAFI, car ils avaient battu en finale le Mali après avoir éliminé les Libériennes en demi-finale. Élisée.
Les Zambiennes qui étaient aux Jeux Olympiques sont aussi concernées par ce premier tour et se rendront pour le match aller au Malawi. Lawal, c'est quand même surprenant de voir aussi le tenant du titre, le Nigeria et le Ghana s'affronter au premier tour.
Oui, tenant du titre, il faut certainement espérer que les autorités de la CAF savent ce qu'elles font. On ne peut pas le comprendre. Le Ghana, c'est un grand pays du foot féminin, le Nigeria tout autant, et qu'aujourd'hui les deux puissent s'affronter, ça va peut-être...
Déjà au tout préliminaire.
Au tout préliminaire, ça veut dire qu'un des grands va rester à la maison. Et ça va agir sur la qualité, certainement, de la compétition. Et s'ils le font comme ça au niveau de la CAF, ils savent ce pourquoi ils l'ont fait. C'est peut-être une façon de donner la chance aux petites nations de se retrouver à la compétition. Mais on aurait aimé avoir un Ghana et un Nigeria en phase finale de cette compétition. Ça va rehausser davantage la qualité de la CAN.
Merci Lawal. Pour une fois, les dames seront actives. Cette saison, la CAF a procédé au tirage au sort de la phase de groupe de la première Ligue des champions féminines qui aura lieu du 5 au 19 novembre 2021 au Caire, dans la poule A. Le club hôte Wadi Degla affrontera les Maliens de l'AS Mandé en match d'ouverture. Ensuite, les Équato-Guinéens de Malabo King et les Ghanéens d'Asakas Lady. Le groupe B rassemble les Vinga Queens du Kenya, les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, l'ASFA du Maroc et les Nigérians de Rivers Engel. Amine, un groupe relevé pour les Marocaines qui sont quand même attendus dans cette compétition.
Tellement le groupe le plus relevé de cette première édition de la Champions League. On connaît la réputation du football féminin en Afrique du Sud, la solidité des joueuses nigériennes. A priori, l'adversaire kenyan semble à la portée de l'équipe de l'AS FAR, mais on peut dire que pour ce premier baptême de feu, ce n'est pas le meilleur tirage possible pour les championnes du Maroc. Elles aborderont la compétition dans un contexte plutôt favorable en Égypte, puisqu'il n'y aura pas de problème d'acclimatation. Mais il va falloir quand même voir dans quelle mesure elles pourront rivaliser physiquement avec les joueuses sud-africaines et surtout avec les joueuses nigériennes. On sait que le Nigeria et à un degré moindre l'Afrique du Sud sont un peu les locomotives du football féminin en Afrique.
À noter que les deux meilleures équipes de chaque groupe disputeront les demi-finales. Merci chers consultants. C'est fini aujourd'hui pour Sporama et merci d'avoir éclairé nos auditeurs qui nous ont suivis un peu partout en Afrique en bande FM ou encore sur le bouquet Cana Plus numéro 555 et aussi sur notre site internet www.voaafrique.com. Place à une nouvelle édition du journal. Bonsoir.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.